Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Est-ce mieux? Ah, voilà. Alors, je répète, est-ce que le fait d'entendre des enseignements sur la guérison et la santé, est-ce que c'est en train de vous aider? Alors, je vais vous dire, c'est un sujet qui est... D'abord, j'ai attendu très longtemps pour enseigner, parce que je ne peux enseigner qu'au temps où Dieu me demande de le faire, vous comprenez? Mais également, c'est un sujet qui est énorme dans mon cœur. Énorme. Et je vais vous dire, la guérison va être si naturelle dans cette église qu'elle sera aussi naturelle que d'ouvrir une porte. Ça va être juste naturel. Ce sera « tu es malade, oh, dans le nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. » Et on va savoir comment recevoir la guérison par la foi. Nous allons savoir comment la maintenir par la foi. Et nous allons savoir comment apporter ce message de l'Évangile aux autres. Amen. Alors, regardez avec moi dans Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Ici, il nous est dit, le Fils de l'homme est venu chercher. Donc le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il est venu chercher et sauver. C'est-à-dire que Jésus n'est pas venu se balader sur terre. Jésus n'est pas venu faire du tourisme sur terre. Le verbe chercher ici, c'est chercher avec beaucoup d'intensité. C'est chercher du style, tu dois normalement quitter la maison à 7 heures du matin et tu es sur le point de te précipiter vers ta voiture et tu te rends compte que tu ne trouves plus les clés. J'ai juste une question à te poser. Comment les chercherais-tu? Hein? Comment chercherais-tu tes clés? Bon, je te donne un autre exemple. Tu es en train de rouler et tu es pressé d'arriver au culte le dimanche matin et tu te dépêches. Certains, d'ailleurs, en se dépêchant ce matin, sont peut-être rendus compte qu'il y avait un radar mobile au niveau de l'aéroport, non? Non, d'accord. Bon. Mais tu te dépêches, et tout d'un coup, tu vois un motard dans le rétroviseur, il est en train de te suivre, et tu comprends qu'il est en train de te demander de te garer, et tu sais qu'il va te demander tes papiers. Tu sais que tu n'as pas tes papiers avec toi. Tu le sais. Pourquoi? Parce que tu ne les prends jamais. J'ai juste une question. Est-ce que tu vas quand même chercher? Oui, il y a des petits malins. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas dire, écoutez, non, je n'ai pas mes papiers sur moi. Ils vont faire semblant de chercher. Et ils vont faire semblant de chercher comme s'ils étaient certains que c'était là. Ils vont chercher avec une rapidité, avec intensité. Quand il est dit que Jésus est venu chercher, voilà, Jésus est venu sur terre chercher avec cette même attitude. Je vais trouver. Où est-il? Alors la question est de dire, mais qu'est-ce qu'il cherchait? Puisqu'il est venu chercher, que cherchait-il? Il est dit qu'il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Qui était perdu? Ben, la Bible nous dit que nous étions tous perdus. C'est-à-dire que nous étions tous séparés d'avec Dieu. Personne n'avait cette conscience de Dieu. Personne ne voulait Dieu. Il a fallu qu'il vienne nous chercher. Et la Bible nous dit que celui qui se laisse trouver... C'est pas que Jésus vient nous chercher, il dit, toi, allez, je te prends avec moi. Pour l'éternité, tu vas passer ta vie avec moi. Non, il faut accepter la personne de Jésus-Christ dans notre vie. Et la Bible nous dit que celui qui est perdu, quand Jésus vient le chercher, la Bible nous dit, cette personne peut être sauvée. Si elle accepte ce que Jésus a fait à la croix, cette personne sera sauvée. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir de quoi sommes-nous sauvés. Qu'est-ce que cela veut dire sauver? De quoi sommes-nous sauvés? Parce que franchement, on devrait voir une différence entre avant Christ et après Christ. Pas simplement au niveau de l'histoire, au niveau de l'histoire, il y a eu beaucoup de changements avant Christ. Après Christ, notre calendrier en parle, mais l'évangile est puissant jusqu'à aujourd'hui. Ma question est, quelle différence avant Christ et après Christ? Qui veut savoir? Oh là là, on va passer un bon moment. Regardez avec moi dans, je voudrais la photo numéro 1, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Alors peut-être, on ne voit pas beaucoup ici, mais c'est la photo d'un marché, pour ceux qui lisent les bandes dessinées. Alors, le verset de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, dit « Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des humains. » Le verbe « vous avez été achetés », le verbe « acheter » ici, a à voir avec cette photo que vous voyez, bien qu'elle soit relativement marrante, c'est une photo de bande dessinée. Mais le verbe « acheter », c'est « agorazo » qui nous parle d'un marché. D'ailleurs, le titre de mon message, c'est « Un tour au marché ». Et la Bible nous dit « Nous avons été achetés à un grand prix ». Il y a cette idée de marché. Dans la Grèce antique, l'agora désignait le marché central et le lieu de rassemblement d'une ville. Mais le marché, c'est quoi? Le marché, c'est là où on traite les affaires. Le marché, c'est là où les échanges prennent place. On achète, on vend, on négocie. Mais ici, l'idée, c'est d'un marché aux esclaves. Photo numéro 1.1. Alors, d'un marché aux esclaves, ici on a une rue. Si vous avez été d'ailleurs en Grèce ou en Turquie, vous pouvez voir des restes de grandes colonnes. Et on vous explique qu'entre ces grandes colonnes ou le long de ces grandes rues pavées, il y avait des boutiques de tous les côtés. Et un marché, c'est un endroit où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. À nouveau, c'est un endroit d'échange, c'est un endroit de négociation, c'est un endroit de commerce. On traite des affaires. Et ici, la Bible nous dit que nous avons été rachetés avec cette idée de marché, et notamment de marché aux esclaves à un grand prix. Alors, photo numéro 2, il faut réaliser que dans ce marché aux esclaves-là, il n'y avait pas beaucoup de dignité. Ceux qui étaient vendus, c'était des gens qui n'avaient aucune propriété à leur nom. Ils n'avaient aucun bien. Ils n'avaient pas un nom propre. Parce que quand ils étaient vendus, ils prenaient le nom de leur maître. Pour savoir comment se passait la vente sur ce marché aux esclaves, c'est exactement ce que vous voyez sur cette photo. Un maître arrivait et il examinait l'esclave, photo numéro 2. Il examinait l'esclave. Il lui ouvre la bouche parce que la dentition parle de la santé. Vous imaginez que ce maître ne veut pas acheter un esclave qui soit en mauvaise santé. Il veut être sûr que celui qu'il va acheter soit capable de faire tout le travail. Photo suivante, numéro 3. Et ici, il n'y a pas beaucoup de dignité. Le maître, il a le droit sur vous. Ce n'est pas que sur vos vêtements, ça n'est pas que sur votre force de travail. C'est un maître Quand un esclave est vendu à un maître, ce maître a droit sur la personne. La personne lui appartient. Bien sûr qu'il veut vérifier la qualité de la peau. Il va, on imagine, photo numéro 4, plus l'esclave est beau, plus il est grand, plus le prix augmente. Ici, ils sont en train d'examiner les esclaves. Et puis, il y avait autre chose. Quand le maître marchait dans ce marché aux esclaves et que ses yeux se posaient sur cet esclave-là, il s'approchait de lui. Tiens, tu veux te mettre devant moi, Sarah ? Et on va dire, c'est moi le maître et c'est toi l'esclave. Désolé, mais... Et il s'approchait et l'insultait de tous les maux. Et il poussait l'esclave. Et il lui mettait des claques. Pourquoi ? Parce qu'il voulait voir comment l'esclave réagissait. Et si, merci Sarah. Et si cet esclave, eh bien, réagissait, si cet esclave ne se laissait pas faire, s'il voyait que l'esclave était quelqu'un qui avait encore de la dignité, parce que quand tu réponds à quelqu'un qui t'insulte, quelque part, ça veut dire que tu as encore un amour qui t'est propre. Il dit, celui-là va me causer des problèmes parce que je n'aurai pas de lui ce que je veux. Et la Bible nous dit que Jésus est venu pour chercher et sauver celui qui était perdu. On vient juste de lire que nous étions dans un... Il nous a rachetés d'un marché. Dans quelles conditions nous a-t-il trouvés ? Parce que quand même Jésus est venu sur ce marché, je vais juste vous lire ceci. Romains, gardez cette image, Romains chapitre 5, verset 12, il est dit « Voilà pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes. » Dans quel marché, puisqu'il est dit que nous avons été rachetés à un grand prix, dans quel marché Jésus est-il venu nous chercher ? Eh bien, nous étions séparés d'avec Dieu. Nous étions vendus au prince des ténèbres qui voulait faire de nous ce qu'il voulait. Et il voulait que nous le servions, que nous fassions ce qu'il nous disait de faire. À chaque fois qu'on se disait, non mais j'ai le droit d'avoir ma maison, j'ai le droit d'avoir des enfants, j'ai le droit, qu'est-ce qu'il faisait ? Non, tu auras ce que je te dis que tu auras. Je vous le lis dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10, il est dit, « Il chantait un cantique nouveau au ciel, et il disait à l'agneau, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, tu as acheté, agorazo, pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, toute langue, peuple et nation. » C'est-à-dire que quand Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, quand il est venu dans ce marché aux esclaves, dans lequel nous étions plongés parce que nous étions séparés d'avec Dieu, il n'a pas cherché des gens de race jaune, il n'a pas cherché des beaux, il n'a pas cherché des intelligents, il est venu pour chercher tout le monde parce que nous étions tous séparés d'avec Dieu. Tout le monde. Le salut est pour tout le monde. La réconciliation est pour tout le monde. Jésus est venu pour tout le monde. Parce que nous étions tous des esclaves. Dans Romains chapitre 7, verset 14, je vous le lis, il est dit « Nous savons certes que la loi est spirituelle. » Et l'apôtre Paul continuait avec « Et moi je suis charnel. » Vendu comme esclave au péché, c'est-à-dire avant Christ, quand le péché se présentait à nous, on ne pouvait pas faire autrement que de pécher. On ne pouvait pas, on était esclave du péché. Et la Bible nous dit que Jésus est venu dans ce marché pour nous chercher et pour nous sauver. Il n'est pas juste venu en disant « J'ai un beau message, j'ai une belle adresse à te montrer, je suis venu de la part d'un Père qui est bon. » Il n'est pas venu seulement nous parler de ce qu'il savait, il est venu pour nous amener avec lui. Et puis, regardez maintenant avec moi dans Tite chapitre 2, verset 14. Ça, c'est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Parce que si nous pouvons comprendre ce que cela veut dire d'être sauvés, alors nous comprendrons que oui, notre Dieu veut que nous soyons guéris. Oui, notre Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il a insisté, il nous l'a montré, il l'a garanti, il l'a sécurisé. Mais encore faut-il savoir d'où nous sommes sortis et où nous sommes maintenant. Et devant la foule en délire, je vais vous lire ce verset, Tite chapitre 2, verset 14. Il est dit, il s'est donné lui-même pour nous. Pourquoi ? Afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne, qui soit plein d'ardeur pour les belles œuvres. Ici, le verbe que vous avez, qui est « afin de nous racheter », ça n'est pas le même mot que « agorazo », c'est un autre mot, écoutez bien, c'est extraordinaire, c'est le mot « lutro », et je ne garantis pas la prononciation, mais ça on s'en moque, c'est grec, hein. Mais vous pouvez tous vérifier ça dans une concordance. Il est dit « il s'est donné lui-même pour nous », et cette idée de « pour nous » est renforcée dans le verbe « racheter » afin de nous racheter. Parce que vous savez quoi ? C'était ce mot « lutro », c'est un mot qui était utilisé pour parler d'un échange de prisonniers de guerre. C'est-à-dire que Jésus a pris notre place. Il s'est livré à un maître dur. Il s'est livré à un maître sans compassion. Afin quoi ? Afin que toi et moi ne soyons plus esclaves des ténèbres, ni des circonstances qui sont dans ce monde, ni que nous ne soyons plus esclaves de la peur, que nous ne soyons plus esclaves de la peur de la mort. Jésus a été échangé, photo numéro 5. Il a pris notre place. Alors, j'ai trouvé cet article-là, selon Valeur Actuelle, depuis 2008, la France aurait versé 58 millions d'euros pour ses otages. Selon le New York Times, la France est le pays qui paye le plus. On n'arrête pas d'entendre. Non, 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 non. La France ne donne jamais de rançon pour qu'un un otage rentre en France, mais apparemment, c'est même chiffré. Hein. Et toujours selon le New York Times, un otage en 2008 valait en moyenne 200 000 dollars contre 10 millions maintenant. Enfin, le journal précise que seuls le Royaume-Uni et les États-Unis refusent de payer les groupes terroristes en échange d'otages. Alors, regardez avec moi maintenant dans Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est dit... Alors vous imaginez hein, que l'otage qui rentre à la maison, surtout s'il sait que la France a payé 10 millions, vous imaginez la joie qu'il a. La joie. On peut tous le voir à la télé. Hein. Hébreux chapitre 9, on peut l'afficher verset 12. Par son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et il a obtenu. Il a obtenu, dans cette version, c'est ayant obtenu une rédemption éternelle. Et ici, dans cette version, c'est il a obtenu une libération définitive. Dans une autre version, c'est « Il a offert son sang à lui et nous a libérés pour toujours ». C'est-à-dire que non seulement Jésus est venu dans ce marché d'esclaves dans lequel tu étais, c'est-à-dire séparé d'avec Dieu, à jamais, aucun moyen de retrouver une dignité, aucun moyen de retrouver ton chemin vers Dieu. Jésus est venu dans ce marché d'esclaves et il a commencé à dire « voilà ce que je vais faire ». Je vais obtenir pour lui une libération, mais pas simplement la libération d'un jour, pas simplement la libération de quelques années. La Bible nous dit éternel, c'est-à-dire qu'il s'est arrangé pour que jamais plus ton ancien maître puisse te récupérer. Est-ce que vous êtes avec moi ? Pour que jamais plus légalement ton ancien maître puisse dire « je te veux et je t'aurai ». Le prix qui a été payé est un prix qui est éternel. Il ne sera pas obtenu, il a été obtenu. C'est fait. Il a été obtenu et la Bible nous dit que c'est par le sang. Évidemment, le sang de Jésus qui a pris notre place. Il s'est livré, la Bible nous dit, il s'est livré. Maintenant, on comprend. Il s'est livré comme un prisonnier aux ténèbres afin de te faire sortir, toi et moi, de cet état d'esclave. C'est-à-dire, si aujourd'hui, écoutez-moi bien, vous êtes esclave de quelque chose, sache qu'il suffit d'une simple décision et de dire « Jésus a payé le prix, je refuse de rester esclave ». Je refuse de rester esclave de la pauvreté. Je refuse de rester esclave de la maladie. Je refuse de rester esclave du manque de pardon. Je refuse de rester esclave de l'alcool. Je refuse de rester esclave de la peur. Je refuse de rester esclave d'un manque quelconque parce que ma libération est définitive. Et par ma confession de foi, je sors d'ici. Et je prêche beaucoup mieux que ce que vous ne réagissez. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, 19, tu réalises que quand Jésus s'est fait prisonnier, s'est livré aux ténèbres à ta place, il l'a fait pour que jamais plus tu aies besoin de retourner, pour que jamais plus tu aies peur de retourner à ce qui faisait de toi un esclave. 1 Pierre chapitre 1, ma question est, qu'est-ce qui fait de toi un esclave? Qu'est-ce qui fait de toi, de quoi, ma question est, de quoi as-tu peur aujourd'hui? De quoi as-tu peur? En fonction de quoi prends-tu tes décisions dans la vie? Jésus est mort afin que tes décisions soient prises en fonction de la liberté qu'il t'a acquise. Un homme libre, une femme libre, ne prend pas les mêmes décisions qu'un esclave. Un Pierre chapitre 1, verset 18-19, il est dit, « Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés. Vous avez été lutro. » De la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise, ce ne fut pas au moyen de choses périssables, comme de l'or ou de l'argent. Non, vous avez été lutro par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. C'est-à-dire que le prix qui a été payé pour toi n'est pas le prix de l'argent, qui change au fur et à mesure qu'on le trafique, ce n'est pas, tu n'as pas été racheté grâce à un paiement en or qui lui aussi change au cours des âges, parce que sinon peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, le Seigneur ne pourrait plus sauver personne parce qu'il dirait « tu ne vaux plus rien parce que mon or ne vaut plus rien ». Le prix du rachat ne connaît pas de fluctuation. Écoute-moi bien, il ne s'agit pas simplement de ta vie un jour dans l'éternité, je suis en train de parler de ta vie de tous les jours, des décisions que tu prends aujourd'hui en fonction de ce que tu comprends. C'est trop important, mes amis. L'évangile doit être annoncé dans la liberté qui nous a été acquise. On n'a pas à avoir honte d'avoir été délivré. D'accord, nous étions blablabla, mais aujourd'hui nous sommes. Et personne n'a le droit de remettre en question notre liberté. Le diable le voudrait, mais la question est, toi, qu'est-ce que tu comprends de ta liberté? Qu'est-ce que tu comprends que Jésus est venu faire? La Bible dit que nous avons été rachetés par un prix qui était le prix du sang. Le prix du sang a été accepté. L'échange de prisonniers a eu lieu. Photo numéro 6, il a été fait de manière à ce que jamais plus nous n'ayons à retourner à cet esclavage. Ce qui veut dire que oui, nous ne pouvons pas perdre notre salut. Ça, c'est une des choses. Mais ça va plus que là. Mon salut, ma vie éternelle avec Jésus-Christ est garantie, mais ça va plus que cela. C'est que ce qui me tenait esclave, si c'était peut-être une instabilité émotionnelle, peut-être que c'était une mauvaise manière de regarder les gens tout le temps en train de suspecter. Peut-être que c'est un mauvais rapport à l'argent. J'amasse. Qu'est-ce qui nous rendait esclaves? Non seulement notre vie éternelle est garantie, mais nous avons été libérés. La Bible parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il n'y a pas un domaine de ta vie que le sang n'ait impacté. Pas un domaine. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez encore avec moi, dans, il est dit ici, oh gloire à Dieu, tu t'imagines, Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est dit, louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction dans le monde céleste. Et je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, il est dit « Toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que non seulement quand Jésus est venu sur ce marché d'esclaves, quand il est venu sur cette terre était un marché d'esclaves et nous étions tous entre les mains d'un maître dur, le prince des ténèbres. Celui qui nous voulait malade, celui qui nous voulait sans nom, celui qui nous voulait sans futur, celui qui nous voulait lié par toutes sortes de choses. Jésus est venu là, il nous a cherchés, il nous a trouvés, il s'est fait prisonnier, il s'est laissé faire prisonnier. Il s'est rendu captif aux mains des ténèbres, il a versé son sang. Son sang nous a libérés de manière à ce que nous n'ayons plus à y retourner et plus que cela. En plus, quand nous avons accepté cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, il dit, tu sais, tout ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez qu'il y a des prisonniers, c'est dramatique pour eux. Ils ont purgé leur peine, Jésus a purgé notre peine. Ils ont purgé leur peine, ils sortent de prison et ils se retrouvent sans rien. Pire, ils restent prisonniers dans leur tête. Parce que toute la société leur rappelle qu'ils étaient prisonniers et qu'on se demande pourquoi ils devraient vivre comme des hommes libres. Toi et moi n'avons pas été rachetés à un grand prix pour ce genre de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu ne vis pas comme un prisonnier qui est sorti de prison par la petite porte et qui rase les murs. Qui se demande, je me demande si quelqu'un va me reconnaître, je me demande si quelqu'un va se rappeler ce que j'ai fait. Tu sors comme un homme libre et la Bible nous dit que tout ce que le Père a racheté t'appartient, c'est-à-dire que la provision de Dieu est à ta disposition. Oui, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, tu peux vraiment, c'est ce qui s'appelle vivre, naître de nouveau. Vivre dans un autre système, vivre avec une autre identité, vivre avec un autre futur, une autre façon de penser. C'est acquis. On n'a pas à faire des efforts pour cette victoire. Nous n'avons juste qu'à entendre parler de cette victoire, des dimensions de cette victoire et à l'accepter. C'est énorme. Regardez avec moi dans Colossiens, chapitre 3, verset 3, parce que cette notion revient. Ici, Galates chapitre 3, première partie, il est dit « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. » 13, pardon, pas 3. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction, et ici c'est le mot ex agorizo, ex qui veut dire hors d'eux. Il nous a sortis du marché. Vous ne vous rappelez pas que dans Colossiens, il est dit le Père nous a transportés hors du royaume des ténèbres et nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il y a un transfert qui a eu lieu. Un transfert qui a eu lieu. Et tout ça, tu réalises que juridiquement, dans les lieux célestes et en bas dans les régions inférieures, plus personne ne peut revenir sur ce qui est légal. C'est fait, c'est légal. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, il sort de l'autorité du prince des ténèbres et il est placé sous l'autorité du Seigneur qui règne sur nous et à travers nous par et avec amour. Tous nos besoins sont pourvus, y compris la guérison. Il n'y a plus rien de commun entre ce que nous étions là où nous vivions avant Christ et là où nous sommes maintenant, unis à Christ. Et puis, il y a un dernier mot que je voudrais voir avec vous afin de compléter ce tour du marché. Regardez avec moi dans Actes chapitre 20, verset 28. Le diable, rappelle-toi, légalement, il n'a pas le droit de te ramener à ton ancienne condition. Légalement, il n'a pas le droit. Tu dis, il n'a peut-être pas le droit, pourtant il le fait. Pourquoi ? Parce que tu le crois. La Bible nous dit, il est menteur, père du mensonge. Et quand il te parle, quand il te fait croire que ça n'arrêtera jamais, quand il te fait croire que tu retourneras là où le Seigneur t'a sorti, c'est parce qu'il veut insuffler la peur afin que sous la pression de la peur, tu prennes la mauvaise décision. Parce qu'il ne peut pas prendre de mauvaise décision à ta place. Il ne peut pas te forcer. Tu es un homme libre. Vous avez trouvé Actes chapitre 20, Verset 28, ici il est parlé notamment au pasteur. Il est dit « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. » Et puis ensuite il est dit « Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. » Donc tout à l'heure on a entendu les verbes « racheter »,« racheter », »,« rachat », »,« acheter », »,« payer ». Mais ici, c'est le verbe « acquérir » qui péripoio, je ne sais pas comment ça se dit ça, mais en tout cas, la définition, je vous la donne, ça veut dire « garder pour soi » ou « posséder pour soi ». Et quelle est l'image que l'on a ici ? Une autre version nous dit « l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang ». L'idée ici, c'est que non seulement il est, on l'a vu, il est venu dans ce marché d'esclaves où nous étions maltraités, où nous étions abusés, où nous n'avions rien, et le peu que nous avions, nous n'étions pas sûrs de le garder. Et nous ne savions pas ce que nous faisions sur terre, nous ne connaissions pas les objectifs, notre futur. Et puis, ce qui se présentait à nous, si c'était la maladie, on dit, ouais, parce que je n'ai pas le droit d'être heureux, je n'ai pas le droit d'être en bonne santé. Mes parents étaient esclaves de la maladie, mes grands-parents étaient esclaves de la maladie, alors moi, je suis né dans une famille d'esclaves, c'est normal. La Bible nous dit que Jésus est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Il est venu dans ce marché d'esclaves. Il s'est livré prisonnier à ce maître dur qu'est le diable. Le diable a fait de lui ce qu'il a voulu, c'est-à-dire qu'il l'a tué et il l'a amené en enfer avec lui. Mais comme Jésus n'était pas en enfer, séparé d'avec Dieu, séparation ultime d'avec Dieu, comme il n'est pas allé pour lui parce qu'il n'avait jamais péché, il est allé pour toi et moi. Une fois que le prix a été payé, il est ressuscité. Il est ressuscité et il dit « Maintenant, celui qui voudra bien de ce que j'ai fait, je le déclare libre. » Et la Bible dit juste sur la « quand quelqu'un le dit, j'accepte Jésus, je reçois la vie éternelle. » La Bible nous dit que cette liberté prend place immédiatement dans le cœur de cette personne. Et cette liberté va se manifester dans tous les autres domaines de sa vie au fur et à mesure où il entend la vérité. C'est énorme. C'est énorme. Mais ici, ce verbe « acquérir » nous parle, nous donne encore un autre aspect de ce que Jésus est venu faire. C'est qu'il nous avons été rachetés afin d'appartenir définitivement à Dieu. Nous appartenons. Il nous a rachetés pour lui. Et nous comprenons pourquoi nous sommes héritiers du grand roi maintenant. Comment un Dieu d'amour pourrait-il vouloir qu'après avoir envoyé son fils Jésus mourir sur la croix, comment pour les péchés et les maladies, comment peut-on encore imaginer que ce Dieu qui nous a amenés à la liberté éternelle puisse nous vouloir prisonniers de la maladie? Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que notre Dieu nous voudrait malades. Que notre Dieu voudrait soi-disant nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? J'ai à apprendre ce que Christ a fait à la croix. Pour moi, voilà ce que je dois apprendre. Et ce que j'apprends me permet de vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Elle est glorieuse, cette liberté. Mais aujourd'hui, nous avons été rachetés afin que nous soyons libres de servir notre Dieu. Et je vais terminer avec ce verset qui nous dit Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 20, il est dit « Vous ne vous appartenez pas. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. » Une autre version dit, écoutez bien, « Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps. » Éphésiens chapitre 1, verset 14 nous dit qu'il s'est acquis pour célébrer sa gloire. Aujourd'hui, à quoi nous servons? Nous servons à célébrer la... J'ai été libéré pour célébrer la grandeur de mon Dieu. Tu imagines... Remettez-moi la photo où on voit les prisonniers qui rentrent à la maison, qui sont sur le tarmac. Voilà, ça c'était les otages français qui ont été libérés du Niger. Et imaginez la joie de ces hommes et de ces femmes quand, en général, ils décrivent que bon, quelqu'un vient les chercher là où ils sont enfermés et leur dit « bon ben, habillez-vous, aux messieurs, on leur donne des rasoirs, du savon à barbe, que sais-je, et leur dit rasez-vous, c'est-à-dire présentez-vous sous votre meilleur jour. » Mais nous, quand nous sortons de notre prison, nous n'avons pas à faire semblant, nous sommes tels que nous sommes. Nous arrivons au Seigneur des ténèbres où nous étions, de la confusion où nous étions, du manque où nous étions, de la maladie où nous étions. Nous arrivons au Seigneur tel que nous sommes. Et puis ensuite, ben, ils apprennent que, voilà, vous êtes libérés, la rançon a été payée. Ils rentrent dans l'avion, ma question est, à quoi pense-t-il? À quoi penserais-tu si tu étais dans cet avion et que tu rentrais en France? J'ai une question à te poser. Est-ce que tu penserais à tes peut-être tortionnaires? Est-ce que tu penserais à tes conditions d'enfermement, de captivité, ou est-ce que tu penserais à tout ce que tu vas revoir? Est-ce que tu penserais à la joie que tu auras quand tu vas serrer ta famille dans tes bras? Est-ce que tu penserais à ce travail que tu as toujours voulu et que tu vas avoir? Est-ce que tu te verrais marcher dans les rues de ta ville? Est-ce que tu penserais à ces nouveaux vêtements peut-être que tu veux acheter parce que tu n'en peux plus de porter la même chose depuis un an? Ma question est, tu penserais à l'avenir ou tu penserais au passé? Hein? À quoi penserais-tu? Eh bien, j'espère que tu aurais assez de reconnaissance pour penser au futur. J'espère que tu occuperais tes pensées à la joie de cette liberté. Amis chrétiens, à quoi occupons-nous nos pensées? À ce qui nous rend esclaves? À ce qui nous a rendus esclaves? Ou est-ce que nous sommes en train de penser à tous ces projets que le Seigneur a pour nous? À toutes ces nouvelles connexions que le Seigneur a pour nous? À ce futur glorieux? À sa puissance qui agit en nous? À tous nos besoins qui sont pourvus? À quoi pensons-nous? Tel il pense, tel il est. Voyez-vous, vivre notre liberté glorieuse ne dépend pas de notre passé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du temps pour certains de vaincre leurs anciens réflexes. Oui, bien sûr, bien sûr, mais ça n'est qu'une question de temps. Je ne dis pas que certains ont certaines vieilles peurs à vaincre. Oui, mais tu es tellement libre que ta liberté est la victoire de Christ. Tu as déjà vaincu tout cela. Ma question est, à quoi passes-tu ton temps? Peut-être que tu n'as pas de projet. Demande à Dieu de te donner des projets. Tu as plein d'idées. Fais quelque chose de ta liberté. Commence une entreprise. Fais quelque chose de ta liberté. Aide ceux qui sont encore prisonniers. Annonce l'Évangile. Sois en bonne santé. Reste en bonne santé. Cette liberté glorieuse, mes amis, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et qu'est-ce que nous devons faire maintenant? La Bible dit nous réjouir. Célébrer la gloire du grand Dieu. Tu comprends que les églises où la parole de Dieu est prêchée, on ne peut pas avoir des églises, des gens qui restent assis sur leur siège en train de louer Dieu pour la liberté qu'il leur a acquise. C'est pas possible de rester debout. C'est pas possible de rester assis. C'est pas possible. Ah, Christ m'a libéré. Ah, la croix, Christ m'a libéré. Ah, la croix, Christ m'a libéré. Amen. Oh, c'est trop haut ça, non? Je ne vais pas lever le bras aussi haut parce qu'on pourrait m'accuser d'être trop libre. Comment devraient être les églises quand tous ces gens libres s'assemblent? Quelle atmosphère devrait-il y avoir quand tous ces gens qui ont été trouvés par Christ, sauvés par Christ, sortis de ces ténèbres par Christ, quel genre de liberté devrait-il y avoir dans les églises? Amen! Amen! Non, n'applaudissez pas trop fort, s'il vous plaît. Est-ce que les malades devraient être guéris? Amen! Est-ce que ceux qui font des cauchemars devraient être délivrés? Est-ce que ceux qui sont dans la pauvreté devraient sortir de leur pauvreté? Amen, amen. Dis à ton voisin, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre.